J'ai pensé, pour faire bien différent aujourd'hui, de vous parler d'un jeune homme, Lambert Kloss. Les gens vont se demander comment ça se fait, mais je dis, moi, qu'il est mort martyr. Ça va surprendre bien des gens. On ne parle jamais de Lambert Kloss comme d'un martyr, mais pour moi, il est mort pour Dieu. Il l'a dit, il l'a affirmé, sa foi était grande et il était tout jeune. Et je profite de l'occasion pour dédier cette émission à nos jeunes de 17 à 30 ans. Je crois que Lambert Kloss, de son nom complet, Raphaël Lambert Kloss, qui est arrivé à Montréal tout jeune à 17 ans, qui était une recrue de Maisonneuve, le fondateur de Montréal, donc au tout début de Ville-Marie, et c'était un jeune homme extraordinaire, un courage de feu. Lambert Kloss a été, pour ainsi dire, notaire à Montréal, enfin il s'occupait des greffes, c'est-à-dire de l'enregistrement des documents. Et de l'âge de 21 ans à 25 ans, c'est incroyable. Et à 25 ans, Maisonneuve l'a nommé gouverneur de Ville-Marie, car il devait partir pour la France, pour Paris. Et je dédie en même temps, un peu à la blague, cette émission à tous ceux, parmi les auditeurs, les auditrices, qui aiment les chiens. Oui, car Lambert Kloss aimait bien son chien Pilote. Je vous en parlerai tout à l'heure. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Tout ça se déroule à une époque terrible où il y avait les guerres iroquoises. Les guerres iroquoises, c'était terrible pour Ville-Marie. Je prends dans l'histoire du Canada par les textes publiés chez Fides, dans le premier tome paru en 1963, ce texte suivant, on s'accorde à faire commencer, n'est-ce pas, en 1640. Souvenez-vous que Montréal a été fondée en 1642, Ville-Marie. On s'accorde donc à faire commencer en 1640 la première guerre iroquoise. Bien que les cinq cantons, comme on disait, s'en soient pris dès 1634 au bourgade des Hurons. Avez-vous vu ce film Robe Noire, où l'on voit justement la destruction des grands villages Hurons par les Iroquois? Vous savez que ces peuples, par ailleurs admirables, comme nous le raconte le père Charlevoix, plusieurs dizaines d'années plus tard, quand il est venu ici, pour faire une étude des peuples indigènes, ce qu'il dit est absolument admirable. J'aimerais citer d'abord un passage de ce que dit le père Charlevoix. Il dit « La beauté de leur imagination, en parlant des Amérindiens, la beauté de leur imagination en égale la vivacité, et cela paraît dans tous leurs discours. Ils ont la répartie prompte, et leur harangue, si vous voulez, leur discours, sont remplis de traits lumineux qui auraient été applaudis dans les assemblées publiques de Rome et d'Athènes. » Il n'y va pas de même ordre, le père Charlevoix. Or, le père Charlevoix était un homme extrêmement instruit, hein? C'est d'après lui qu'on a le comté de Charlevoix, c'est en son honneur. Et le père Charlevoix ajoute, « Leur éloquence a cette force, ce naturel, ce pathétique, que l'art ne donne point, que les Grecs admiraient dans les barbares. » Les barbares, c'est-à-dire les étrangers à l'Empire, à l'époque en Europe. « Et quoiqu'elles ne paraissent pas soutenues par l'action, qu'ils ne gesticulent point, qu'ils n'élèvent point la voix, on sent qu'ils sont pénétrés de ce qu'ils disent et ils persuadent. » C'était donc des peuples qui avaient un grand talent oratoire, mais par ailleurs, ils étaient, sous d'autres rapports, très, très, très primitifs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils avaient de grandes qualités de courage, mais aussi ils étaient très cruels. Pas tous, mais en particulier les Iroquois. Il était un peuple fort, un peuple courageux, un peuple d'honneur. Et alors donc, ils s'en sont pris dès 1634 aux bourgades des Hurons qui étaient alliés aux Français depuis l'avenue de Champlain en 1608. Je vous fais cette espèce de panorama pour mieux comprendre comment se situe le martyr de Lambert Kloss. Alors cette guerre a duré très longtemps et Lambert Kloss, lui, l'événement où il est mort se situe en 1663, peu de temps avant qu'on impose la paix aux agresseurs de Ville-Marie en 1670. En 1663, ça vous rappelle quelque chose, c'est 100 ans avant le fameux traité de Paris où nous avons perdu notre pays. Après 14 ans de calme, les hostilités avec les Iroquois se sont rallumées en 1680. Et les Illinois sont les premiers attaqués. En 1684, les Franco-Canadiens, ce qu'on appelle les Québécois aujourd'hui, entrent dans le conflit sous la direction de quelqu'un qui était absolument incapable de se battre. C'était Antoine Lefebvre de la Barre. Et tout ça s'est déroulé finalement où il y a eu des moments pénibles. J'ai peine à tout vous raconter. Mais qu'il suffise de parler de l'incursion la plus meurtrière qui reste toutefois le massacre de la Chine qui a été perpétré le 5 août 1689. Donc 26 ans après ce malheureux combat où Lambert Clos a perdu la vie comme martyr. Et à cette occasion, les Iroquois avaient saccagé la campagne à 3 lieues à la ronde. Ils avaient fait 50 prisonniers. Ils avaient massacré 66 personnes. Nos ancêtres ont eu beaucoup à souffrir et nous ne le savons pas souvent. 66 personnes. Qu'est-ce que les Iroquois avaient fait? Ils leur avaient cassé la tête aux uns, brûlé, rôti et mangé les autres, ouvert le ventre des femmes enceintes pour en arracher les enfants et faire des cruautés inouïes et sans exemple. Tous les peuples amérindiens n'étaient pas pareils. Et cette cruauté terrible, vous savez, nos ancêtres, à nous, ont aussi pratiqué des cruautés abominables, on le sait. Même alors que nous étions en principe chrétiens et civilisés. Que dire de nos ancêtres qui vivaient il y a des milliers d'années en France ou ailleurs? Ces hommes plus ou moins barbares, simples. Vous savez, l'idée de Jean-Jacques Rousseau, que l'homme est naturellement simple et bon, ça peut être vrai pour certains peuples que l'on trouve en Amérique du Sud ou ailleurs, mais c'est pas toujours vrai pour bien d'autres peuples. Alors, des deux guerres iroquoises, la première fut la plus désastreuse, et elle faillit entraîner la perte du Canada, qui venait d'être fondé par nos ancêtres. Quand je dis nos ancêtres, je m'excuse auprès des gens qui ne sont pas ici depuis 350 ans, c'est que nous formons quand même 80% de la population de ce pays, le Québec. Alors je dis nous. Je m'en excuse, je ne veux pas insulter les autres. Hein. Après tout, les Italiens sont fiers d'être Italiens. Nous en avons ici à Radio-Ville-Marie. Monsieur Pirot est fier d'être Italien, ça, son épouse aussi. Et je ne les blâme pas. Et d'autres sont bulgares ici, ou russes d'origine. Ils sont fiers. Et nous aussi, nous sommes fiers. C'est normal. Nous les accueillons avec grand joie dans notre pays que nous aimons. Et de 1646 à 1650, la Nouvelle-France, comme on disait, a assisté impuissante à la destruction des Hurons. Et on raconte ça dans les relations là, de 1648, 1649, 1650 et 51. Qu'est-ce que c'est que ces relations? Vous pouvez vous procurer ça, hein, ça a été réimprimé. C'est plusieurs tomes, il y a 6 tomes, c'est Relations des Jésuites. Ici, en main, j'ai le tome de 1656 à 1665. C'est réimprimé d'après, vraiment, l'édition très ancienne, avec les mêmes caractères et tout ça. Et ça a été publié aux éditions du Jour, à Montréal, au début des années 70. Ce sont de magnifiques volumes qui se lisent admirablement bien, même si c'est en vieux français. Très agréable à lire, mais bouleversant souvent, bouleversant. En 1650, battu, terrorisé, un dernier groupe de 300 à 400 Indiens se détermine à chercher refuge chez nous, dans la zone qui avait été colonisée, là, du Saint-Laurent, à la suite de leur missionnaire, le père Paul Ragneau, dont je vous parlerai un jour. Et celui-ci raconte le terrible voyage dans la relation, justement, de 1650. J'aurais le goût de vous en lire un petit extrait, très bref. Il raconte que ce fut vers la fin de l'hiver 1650 que commencèrent nos malheurs, quand une troupe de 160 Iroquois ayant paru à Montréal, Ville-Marie, et ayant inopinément enveloppé 13 Français, qui songeaient plus à leur travail qu'à leur défense, ils les enlevèrent sans coup férir. Ce ne fut pas sans de grandes marques de leur manie enragée, qui les menèrent chez eux en triomphe, les uns ayant été assommés par des coups de bâton qu'ils ont reçus à l'entrée du bourg, mourant sous le bois qui leur devait servir de bûcher. D'autres ont été brûlés avec des cérémonies ordinaires. Ils font leur jeu d'un enfer de tourments, en parlant de ces Iroquois, et trouvent un sujet de rire des pleurs lamentables d'un pauvre patient. On a vu ça dans le film Robe Noire. Donc les cinéastes nous montrent, les documents sont là, et c'est triste de penser que ces gens se soient conduits comme ça, alors que quand on les voit aujourd'hui, pour la plupart, quand on va à Kanawake, on voit des diacres de l'Église catholique qui sont des Iroquois d'une grande tendresse et d'une grande profondeur et d'une grande fierté et d'une grande intelligence. J'ai déjà assisté à la messe là, dans leur magnifique église à Kanawake. C'était la messe de funérailles du père Henri Béchard qui leur a donné toute sa vie, un jésuite, il y a quelques années. La chorale chantait si bien et la cérémonie fut si belle. Et ces gens discrets, un peu effacés parce qu'ils sont plutôt anglophones, devant nous qui étions francophones, étaient quand même très accueillants et bien gentils. Je vous assure, il ne faut pas généraliser et croire que parce qu'il y a quelques-uns qui font encore des choses un peu pénibles, ça veut dire qu'ils sont tous comme ça, loin de là. Et le père Agneau raconte aussi, quelques-uns furent dispersés pour gémir le reste de leurs jours dans une servitude plus rude que la mort. Et ce sont nos ancêtres, ça. Ce premier coup fut bientôt suivi d'un second qui jeta 10 autres Français de Montréal dans la même captivité par une surprise presque semblable. Puis d'autres encore et encore d'autres tombèrent entre leurs mains. De sorte que pendant tout l'été, cette île de Ville-Marie, de Montréal où nous sommes, s'est toujours vue attaquée par ces gens qui tantôt paraissaient à l'oreille du bois, se contentant de nous charger d'injures, tantôt se glissaient jusqu'au milieu de nos champs pour y surprendre le laboureur, tantôt s'approchaient de nos maisons, ne cessant de nous vexer. Et comme des oiseaux de proie, ils fondaient sur nous quand ils nous trouvaient par surprise. Cette année mérite d'être mise au nombre des malheureuses et des funestes, et les suivantes verraient bientôt le tombeau d'un beau et grand pays, si le roi n'avait pris résolution de faire de sa Nouvelle-France un pays libre en envoyant du renfort. Eh bien, c'est ce renfort qui, lorsqu'on lit les documents, c'est dans ces listes que l'on retrouve nos noms, nos ancêtres. Et je rends hommage à nos ancêtres qui ont eu un grand courage d'essayer d'aimer quand même ces gens, au point d'arriver à les transformer, ces ennemis difficiles, et en faire des gens absolument admirables qui ont rendu de grands services à notre pays, ces indigènes. Mais je pense aussi aux peuples alliés, comme les Abénakis. J'ai un peu de sang Abénaki, moi, j'en suis très fier. Dans un livre publié au début du siècle, qui est intitulé « L'oublié », c'est un livre de Laure Conant, qui est le nom de plume de Félicité Angers. C'est la plus remarquable à l'époque de nos femmes de lettres. Bien, elle parle justement de Lambert Clos. L'oublié, c'est Lambert Clos. Et je crois que il faut essayer de réparer aujourd'hui l'oubli dans lequel est plongé Lambert Clos. D'accord, il y a une rue Clos près du Grand Séminaire et qui part de la rue Sherbrooke et qui descend jusqu'à Sainte-Catherine. C'est une petite rue. La rue Clos. Comme on dit souvent chez des Québécois qui connaissent pas ça, qui pensent que c'est un nom anglais, ils disent la rue Clossé. J'ai entendu ça je ne sais combien de fois, mais c'est effrayant. Eh bien, donc ce héros du roman L'oublié de Laure Conant, Félicité Angers, c'est Raphaël Lambert Clos, sergent-major à Ville-Marie, bras droit de Maisonneuve, compagnon d'armes de Charles Lemoine, ce grand héros de notre histoire, émule enfin de Dollard des Ormeaux, est tombé 2 ans après de l'art des Ormeaux, en défendant lui aussi son pays, la Nouvelle-France. Laure Conant avait trouvé un beau titre, hein? L'oublié, c'est bien approprié. Et ce titre, on pourrait l'appliquer à toute une série de rappels historiques que j'aurais le goût de vous faire pour vous parler des gens qui sont nos ancêtres, Leur sang coule dans nos veines, et nous pouvons être fiers de leur foi, de leur dynamisme, de leur courage, et de leur piété profonde. Le personnage de Lambert Kloss est un petit peu mieux connu qu'autrefois par quelques rares personnes. Mais il est terrible que ce nom glorieux de notre histoire, d'un jeune homme, ait été enfoui dans l'oubli. Pendant plus de 2 siècles. D'accord, nous ne manquons pas de héros. Parmi les plus grands héros de notre histoire, moi j'aime particulièrement Marie de l'Incarnation. D'ailleurs, elle parle dans sa correspondance des événements qui sont survenus autour de Lambert Kloss. Elle en parle dans une lettre à son fils. Vous savez, son fils qui était bénédictin. Son seul fils qu'elle avait abandonné quand il avait 9 ans, l'avait confié à son frère pour entrer chez les Ursulines. Et tout ça est un drame terrible. On dit quelle ingratitude. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, un enfant de 9 ans ou 10 ans était déjà presque un petit jeune homme. Hein. Et elle écrit à son fils, les Iroquois ravagent tout proche d'ici. Et l'on dit qu'ils s'arment en grand nombre contre nous. Mais n'ayez point de peur pour nous. Elle est à Québec, elle. Car outre que notre maison est bonne, elle est encore sous la défense du fort. Mais ce n'est pas là où est notre confiance. Notre bon Jésus l'est tout entière. Nous en expérimentons sans cesse des protections qui n'appartiennent qu'à un Dieu fort et puissant. Priez-le pour nous tous, et pour moi particulièrement, afin que je sois digne d'être un parfait holocauste à la divine majesté, en la façon qu'il jugera être à sa plus grande gloire. Je vous rappelle que Marie de l'Incarnation est à mon avis le plus grand auteur, le plus grand écrivain de notre pays. Le style, la langue, le vocabulaire, tout, la qualité de la pensée est absolument exceptionnelle. Or, Marie de l'Incarnation, cette Ursuline de Québec, qui venait de Tours, est l'une des plus grandes mystiques de toute l'histoire de l'Église, presque à l'égal, sinon même à l'égal de Thérèse d'Avila. Raphaël Lambert Kloss, pour revenir à notre héros d'aujourd'hui, est né en 1630 dans la paroisse de Mogues, dans le canton de Carignan, en pays flamand. Ça rappelle le régiment de Carignan. Et mon ancêtre, moi, est venu avec le régiment de Carignan comme l'ancêtre de beaucoup, beaucoup de Québécois. C'est dans le département actuel des Ardennes. Il était fils de Jean Kloss, de Cécile de la Fosse. C'est à peu près tout ce que nous savons de sa vie en France. On a prétendu qu'il était arrivé au Canada en 1642, au moment de la fondation de Montréal. Ça le ferait arriver à 12 ans, c'est trop jeune, c'est pas possible. Et à cette date d'ailleurs, on trouverait son nom dans les textes anciens. L'archiviste montréalais Massicotte, le fameux E.Z. Massicotte, a montré dans le bulletin des recherches historiques de 1918 qu'il n'y a pas de raison de supposer qu'il soit arrivé avant l'âge de 17 ans, c'est-à-dire en 1647. Qu'avant 1647, il n'est jamais fait mention de Kloss, ni dans le récit des combats assez fréquents qui se sont livrés à Ville-Marie de 1642 à 1647 avec les Amérindiens. Certains Amérindiens, car il y en avait d'autres qui nous étaient très dévoués, nous étions extrêmement intimes avec eux. On ne trouve pas son nom non plus dans les actes notariés. Il aurait pu figurer comme témoin. Les habitants de Ville-Marie était si peu nombreux d'ailleurs que s'il avait été là parmi eux, tel que nous le connaissons, courageux, jeune, fier, il aurait été question de lui. Tandis qu'à partir de 1647, là, le nom de Lambert Kloss est toujours en évidence dans les récits militaires, de même que dans les pièces notariées. Et ce point-là nous paraît réglé. Lambert Kloss est arrivé en 1647 avec M. Paul Chemédé de Maisonneuve, celui que l'on considère comme le fondateur de Montréal, bien que, à mon avis, le vrai fondateur de Montréal, c'est Jérôme Leroyer de la Dauversière, qui, j'espère, un jour sera canonisé, ce père de famille admirable qui a fondé les Sœurs hospitalières de Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Il les a fondées en France, il n'est jamais venu ici, et c'est lui qui avait organisé la fondation de Montréal. Mais enfin, c'est Maisonneuve qu'on considère généralement comme le fondateur puisqu'il est venu ici et qu'il a installé la colonie de Ville-Marie. Alors, il revenait en 1647 d'un voyage en France, il a ramené Lambert Kloss. La nouvelle recrue, donc, de ce qu'on appelait la Compagnie de Montréal, qui allait se distinguer très rapidement, n'avait pourtant que 17 ans, mais Kloss est tout de suite au premier plan. C'est Robert Humilly qui lui a consacré une place parmi les artisans du miracle canadien. C'est très intéressant à lire, ça y souligne, d'après les premières chroniques de Montréal, que, je cite Humilly, dans une colonie où tout le monde était brave, c'est ça nos ancêtres, Clos trouvait le moyen de se distinguer par sa bravoure. C'était pas une nouille. Il partit un jour à la tête d'une vingtaine d'hommes, dit Rumi, pour délivrer des colons assiégés à la pointe Saint-Charles. En route, ils tombèrent dans une embuscade. Une embuscade d'Iroquois, qui tuèrent 4 hommes, des habitants de Ville-Marie, de Montréal. Avec un parfait sang-froid, Lambert Clos a demandé qu'on tire, qu'on organise un feu en règle, à la façon qu'on utilisait à cette époque. Alors 16 hommes ont ajusté chacun un de ces pauvres Amérindiens qui nous attaquaient, mais que voulez-vous, il fallait bien se défendre, de les prendre comme, chacun comme une cible, et 16 Iroquois ont été touchés. Pas nécessairement tués, mais touchés. Et à la seconde décharge, les 16 tireurs ont atteint encore 16 Iroquois. Alors l'ennemi s'est enfui sans demander son reste, évidemment, comme on raconte dans les vieux documents. Alors on peut remarquer que ce jeune homme de 18 ou 19 ans, Lambert Clos, a déjà des qualités de chef et de tacticien. Il va conserver, une réputation de tireur émérite. Il était d'ailleurs apparemment armurier de son état, semble-t-il. Il est fort habile, dit-on, à monter puis à manier des armes. De là lui vient également son commandement de sergent-major, c'est-à-dire de commandant des soldats colons de Ville-Marie. On l'appelle généralement, bien qu'il soit tout jeune, major. Mais ce nom peut nous induire en erreur parce que il n'y avait pas beaucoup de militaires à Ville-Marie dans ce temps-là. Il y en avait à Québec, mais pas à Montréal. Il faut pas oublier qu'avant 1663, la ville, je vous le rappelle, a été fondée en 1642, il n'y avait pas de soldats réguliers à Ville-Marie. Mais d'autre part, les défenseurs de la ville n'étaient à cette époque qu'une petite poignée. C'est Benjamin Sult, l'historien, qui va jusqu'à dire qu'en 1660, Dollard, Desormeaux et ses compagnons composaient à eux seuls toute la garnison de Ville-Marie, toute l'armée, si vous voulez. En somme, Lambert Clos n'était que le commandant d'une simple escouade. Il ne pouvait avoir le titre réel de major. Mais la faiblesse de cette garnison, elle met d'autant mieux en relief, oui, le courage et la vigilance de son commandant. Lambert Clos assura la protection efficace de l'avant-poste de Ville-Marie avec tous les moyens qu'il a pu imaginer. C'est ainsi qu'il a pris l'initiative d'utiliser des chiens comme sentinelles. Oui, des chiens comme sentinelles. Il avait la chance de tomber tout d'abord sur une petite bête, son petit chien à lui, qui était particulièrement intelligent, ce chien. C'était une chienne, d'ailleurs. Elle s'appelait Pilote. Elle flairait l'Iroquois du milieu. Ça a contribué en maintes occasions à sauver la ville. Elle avertissait, les gens rentraient à l'intérieur des murs. Elle a bien mérité de passer à l'histoire. Elle a même les honneurs du bronze. Oui, oui. Si jamais vous allez sur la place d'Armes à Montréal, admirez-y la belle statue de Maisonneuve devant l'église Notre-Dame. Manquez pas de regarder avec attention les 4 personnages qui sont placés au coin de la base du monument. Et vous verrez là Lambert Clos, genou en terre, il guette l'ennemi au loin, et vous constaterez que le sculpteur Louis-Philippe Hébert n'a pas oublié la petite chienne Pilote. On voit sa petite tête. Elle s'aperçoit entre les jambes de son maître. En somme, il fallait rien épargner pour protéger Ville-Marie. Toutefois, le moyen le plus efficace était encore et toujours le courage des habitants. Les habitants, il y avait là Louis Prudhomme, je le signale, parce que nous avons entendu ce matin à 9h30 une émission de Robert Prudhomme. C'est son ancêtre, Louis Prudhomme, un des fondateurs de Montréal. C'est l'ancêtre aussi de ma belle-sœur Luce Prudhomme, la femme de mon frère Jules, qui habite justement Marieville. Non pas Ville-Marie, mais Marieville. Antoine, il était souvent mis à contribution, notre Lambert Clos. Il a brillé en 1650, dans des escarmouches nombreuses. En 1651, avec 21 ans, c'est la défense victorieuse de l'Hôtel-Dieu de Jeanne-Mance, défense menée par 16 hommes contre 200 Iroquois. C'était une proportion coutumière à cette époque entre les forces en présence. En 1652, à 22 ans, Benclos est attaqué par une bande considérable. Il se barricade dans une redoute de fortune, mauvaise cabane de bois, où il tient avec énergie pendant qu'un de ses hommes court chercher du renfort. Et puis on envoie 10 hommes et 2 petits canons. C'est ainsi que ces 2 poignées de braves réussissent à chasser les assaillants. À rencontre spirituelle, il est question de Lambert Clos, un jeune héros, un modèle pour nos jeunes d'aujourd'hui. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Car Lambert Clos a été, comme on dit, le bouclier de Ville-Marie pendant les 15 ans qu'il y a vécu. Il est arrivé à 17 ans. Mais il est aussi chargé de quelques besognes de confiance, comme on disait. Je vous l'avais dit, il a été notaire. C'était au fond le second notaire, mais pas un vrai notaire. Hein. C'est quelqu'un qui rassemble des actes notariés, quoi. De Ville-Marie, là, de 1651 à 1655, son greffe, comme on dit, là, son livre, si vous voulez, ne sera pas considérable. 30 actes en tout. Mais c'est l'ensemble des transactions de cette période de 4 ans. Et s'il cesse de faire fonction de notaire là, en 1655, c'est qu'il est nommé, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, commandant de la ville à 25 ans en l'absence de Maisonneuve qui est parti pour un autre voyage en France. Et cette marque de confiance du gouverneur de Ville-Marie dit mieux que tout, à mon avis, l'éloge. C'est l'éloge vraiment du mérite de ce jeune homme de 25 ans. Car Maisonneuve était un homme qui quand même était très bon et très sincère et très vrai. Et s'il a choisi Clos, c'est parce que Clos était un chrétien remarquable et honnête. Et Clos se verra accorder une terre d'ailleurs en 1650. Il sera colon à ses heures libres, selon les règles de la dure vie des pionniers, nos ancêtres. Ce qui veut dire que le défricheur ne doit jamais oublier qu'il est soldat, ou qu'il doit garder son mousquet, sa carabine, si vous voulez, à portée de la main. D'ailleurs, dans le vieux Montréal, si vous allez au coin de la rue Notre-Dame et Saint-Gabriel, Notre-Dame-Est et Saint-Gabriel, il y a une plaque là, de la Commission des monuments historiques, où il est dit, en 1658, Raphaël Lambert Clos, bras droit de Monsieur de Maisonneuve, reçut en récompense de sa bravoure un fief dont ce terrain faisait partie. Entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques, il y a une autre plaque. Cet endroit portait jadis le nom de Côte Saint-Lambert, Lambert Clos, en l'honneur du major Lambert Clos, 1630-1662. Commandant intérimaire de Ville-Marie en l'absence de M. de Maisonneuve et qui fit tuer près d'ici dans un combat contre les Iroquois, près de des rues Notre-Dame et Saint-Jacques. Oui, ça se déroulait là, on marche là, on pense pas que des gens sont morts martyrs pour Dieu et la patrie, comme on disait. On peut se moquer de ces expressions, elles étaient sincères dans le cœur de ces gens. Et alors donc, il a obtenu cette terre, et puis il est devenu un peu agriculteur, et le 12 août 1657, à 27 ans, Lambert Clos a épousé Élisabeth Moyen, qui était âgée de 16 ans. C'était pas si jeune que ça, je vous le répète, au cas où il y a des gens qui viennent de commencer à écouter cette série d'émissions. Moi, je peux vous dire que ma grand-mère paternelle a épousé le père de mon père à 16 ans. Au siècle dernier, il y a longtemps. Je les ai jamais connus, justement, il y a longtemps. Car je suis le plus jeune de mon père, qui était le plus jeune de 17 enfants, alors. Mais un jour, je vous parlerai de la mort tragique de 2 colons, le Macquart et Moyen. Moyen, c'était le père d'Élisabeth Moyen, Madame Clos, la femme de Lambert Clos. Ils ont été massacrés avec leurs épouses par les Iroquois. Mais les enfants, Marie et Élisabeth Moyen, et les deux enfants Macquart aussi, c'est peut-être 4 enfants, ont été amenés en captivité, eux autres. Ils n'ont pas été tués. Et la petite Élisabeth, qui était la plus âgée des 4 enfants, mais était toute jeune, très jeune, elle a fait comme une vraie mère, elle a consolé et réconforté sa petite sœur et ses petits compagnons, avec tout le sérieux, paraît-il, et la fermeté d'une petite maman, au point que les Amérindiens étaient très touchés. Car vous savez, ces gens qui étaient un peu barbares sous les bords, même très barbares, étaient aussi des hommes admirables sous d'autres points. Il ne faut pas penser que ces Iroquois n'étaient que pervers, pas du tout. Hein. Nous savons d'ailleurs que Charles Lemoyne et Lambert Clos ont réussi à obtenir la délivrance de ces quatre enfants, de ces quatre petits orphelins. Ils ont été changés contre des prisonniers. Alors, Élisabeth Moyer, la future Madame Clos, a été confiée à nul autre qu'à Jeanne Mance, qui l'a élevée. Donc, elle a eu comme mère la première infirmière, et je pense bien une sainte. Jeanne Mance était une sainte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour la canoniser. Qu'est-ce qui se passe, hein? Quelques mois après le mariage, donc, de Lambert Clos avec cette petite Élisabeth Moyen, âgée de 16 ans, Maisonneuve a concédé aux nouveaux époux un nouveau terrain qui est connu dans la chronique montréalaise sous le nom de Fief Clos. Il se trouvait au cœur de la ville actuelle, au nord de la rivière Saint-Martin qui disparut dans le sous-sol. L'archiviste Massicotte a même établi que la maison de Clos se trouvait où? Il y a peut-être des gens qui m'écoutent à ce même endroit. C'était au carrefour du boulevard René Lévesque et de la rue Saint-Dominique. Lambert Clos, toujours chef des troupes, a continué d'assurer la protection de Ville-Marie, s'exposait volontiers. Ses amis, pourtant convaincus de son habileté, de son courage à combattre les Indiens, lui rappelaient souvent qu'il fallait être prudent. Mais voici la belle réponse de Lambert Clos qui est authentique. Elle a été conservée dans les documents de l'époque. Voici ce qu'il dit. Et c'est là que, pour moi, Lambert Clos est un martyr. « Je ne suis venu à Ville-Marie qu'afin d'y mourir pour Dieu. » Pour Dieu, oui, oui. « Et si je savais que je ne dusse point y périr, je quitterais le pays pour aller guerroyer contre le Turc, afin de n'être pas privé de cette gloire. » Se battre contre le Turc, c'était à l'époque contre les musulmans qui envahissaient l'Europe. Les musulmans turcs. En somme, il dit mourir pour Dieu. Hein? C'est le signe d'une âme de martyr. Ça. Il avait 25 ans, 30 ans. En tout cas, il n'a pas été déçu dans ses espérances. Après avoir été témoin de tous les jours angoissants là, de 1659 puis de 1660, quand Ville-Marie était attaqué par les Iroquois, et après avoir connu le sacrifice de Dollard des Ormeaux, bien, il a défendu pendant 2 ans encore Ville-Marie, devenue la cible des Iroquois, qui n'arrêtait pas. Le jour suprême est arrivé, c'était le 6 février, c'est aujourd'hui un 6 février, le 6 février 1662, il y a donc près de 3 siècles et demi. Eh bien, je laisse la parole à Delier de Casson, Monsieur Delier de Casson, qui a écrit ce qui suit dans son histoire de Montréal. Voici le récit. Ce jour-là, M. Clos, toujours prêt, selon sa coutume, a exposé sa vie pour protéger celle des colons en danger. S'était porté avec plusieurs autres dans un endroit attaqué par les Iroquois, où se trouvaient quelques travailleurs. Et parmi ceux qui le suivaient était un flamand, attaché comme domestique à son service. Le feu non interrompu des Iroquois ébranla le courage de ce lâche auxiliaire qui en vint à prendre la fuite et à abandonner le major, tandis qu'un autre serviteur, Pierre Pigeon, d'une taille au-dessus de la moyenne, déploya dans cette même action un courage vraiment héroïque. Mais la fuite du flamand haussa le cœur aux Iroquois qui attaquèrent avec plus de hardiesse le major. Le major, c'est Lambert Clos. Ainsi délaissé, il ne perdit rien de son sang-froid ordinaire, ni de son intrépidité dans cette occasion. Et si Dieu n'eût permis que ces deux pistolets ne fissent feu l'un après l'autre, c'est-à-dire que les amorces des pistolets ne s'allumèrent pas, il eût vraiment changé la fortune du combat, ou du moins eût fait éprouver à l'ennemi de nouvelles pertes. Mais, avant qu'il eût pu remettre ses armes en état de servir, il fut atteint lui-même et perdit la vie. Et voici ce que M. Delier de Casson écrit, pour terminer. « Il mourut en brave soldat de Jésus-Christ et de notre monarque. » Voici le passage des relations de 1662, hein, les relations des Jésuites, les textes que les Jésuites envoyaient en France à leurs supérieurs. Lambert Clos a tenu ferme à la tête de 26 hommes seulement, contre 200 Onontagués, combattant depuis le matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi.
Il leur a fait souvent lâcher prise. Souvent, il les a dépossédés des postes avantageux et même des redoutes dont ils s'étaient emparés. On a jugé à propos de cacher sa mort aux ennemis, de peur qu'ils n'en tirassent de l'avantage. Je m'excuse de ces expressions comme « tirasse », là. Disons, de peur qu'ils n'en tirent de l'avantage. Bon, ce sera plus clair, hein? Je continue le texte, une seule ligne des relations des jésuites. Là. Nous devions cet éloge à sa mémoire puisque Montréal lui doit la vie. C'est pas n'importe qui, Lambert Clos. Hein. Nous avons donc raison, à mon avis, ici au Québec, de placer Lambert Clos à côté de Pierre Boucher. Bon, faudrait bien vous parler un jour. Le dollar des Ormeaux, même s'il a été bien attaqué par certains historiens. Car ils ont chacun, dans leur temps, dans leur lieu, là, ils ont sauvé Bill Marie. Voici un autre passage de Delier de Casson. Il parle de Lambert Clos. Si l'on avait eu le soin d'écrire chaque année toutes les belles actions qui se sont faites et passées autrefois à Bill Marie, nous aurions bien des éloges à faire de lui, Lambert Clos, car il était partout. Et partout, il faisait merveille. Mais par défaut de monuments écrits, je suis obligé de les passer sous silence, aussi bien que les faits héroïques de plusieurs autres, qui ne se proposaient pareillement, pour fin, que la gloire de Dieu. Je le répète, c'est pas des mots, là. Cessons de nous imaginer que tout ce monde-là ne croyait pas, puis était matérialiste comme nous le sommes. C'est pas vrai. Ces gens-là avaient une foi vivante, naturelle, comme on respire. Il faut lire les textes de l'époque. Hein? Oh, ça me fâche des fois. Delier de Casson ajoute, « Non, on ne saurait raconter dignement les excellents services que cet excellent major a rendus à Ville-Marie. » Je vous ai parlé tout à l'heure de Marie de l'Incarnation, qui est toujours pondérée, si exacte, dans toutes les relations qu'elle fait à son fils ou à d'autres, l'appréciation des événements que l'on trouve dans ses lettres, toujours à son fils, dont Claude Martin, qui était abbé d'un monastère, de la congrégation Saint-Maur, la grande congrégation des bénédictins Saint-Maur, les savants. Hein. Elle dit de Lambert Clos qu'il était un des plus vaillants hommes qui a été dans la colonie. C'est de lui que je vous parle aujourd'hui. C'est un jeune homme. Hein. En somme, c'est entendu. Ce héros, Lambert Clos, qui est mort à 31 ans, avait droit à autre chose que l'oubli. La réparation doit être inscrite dans notre histoire. Elle est dans le bronze là-bas devant l'église Notre-Dame. Elle est dans le roman de l'Orcona. Aujourd'hui, il y a une rue de Montréal qui porte son nom. Hein? C'est presque devant le grand séminaire, je vous rappelle, la rue Clos. Il mériterait de patronner une plus belle rue. Il avait eu deux filles, dont la première, Élisabeth, est morte le jour même de sa naissance, le 4 octobre 1658, mais l'autre, Jeanne-Cécile Clos, est née en 1660. Elle a épousé en 1678 Jacques Bizard. Qui c'était ce Jacques Bizard? B-I-Z-A-R-D, ça vous dit quelque chose? C'est lui qui a été seigneur de cette île Bizard, qui porte toujours son nom. Il y a des gens qui m'écoutent, qui habitent l'île Bizard. Eh bien, c'était le mari... Ou le gendre, il était le gendre de Lambert Clos. Et elle a épousé en deuxième noce en 1694 un autre officier, Blaise des Bergères. Blaise, joli prénom au fond, mais dangereux à porter. Elle a eu 6 enfants de son premier mari, Jacques Bizard, et 3 de son second. C'est dommage, il n'y a pas de Clos au Canada. Mais il y a des descendants qui sont, je l'espère, à la mesure de leurs ancêtres. J'espère que les descendants de Lambert Clos sont vraiment fiers de descendre d'un homme comme lui. Dans le roman de l'Orcona l'oublié, que j'ai aussi dans ma bibliothèque, je ne savais même pas, j'avais oublié ce roman, je l'ai retracé, j'étais très content. J'ai retracé, dans les derniers chapitres, des passages admirables. Elle écrivait très bien, cette Laure Conant. Hein? D'ailleurs, son roman, L'oublié, publié à l'époque chez Beauchemin, à Montréal, a été couronné par l'Académie française. Je vous lis pendant quelques minutes ce récit. On était encore en plein hiver à Ville-Marie, mais la température était douce. Le soleil, ce jour-là, s'était levé, magnifique. Et la vive lumière matinale donnait un aspect radieux à la chambre où Élisabeth priait, comme prient ceux qui croient aux heures de mortelle angoisse. C'est Élisabeth Moyen, la femme de Lambert Clos. Le tocsin avait retenti, et son mari, Lambert Clos, l'avait quitté en hâte pour courir au combat avec ses deux serviteurs, dont il a été question tout à l'heure, le flamand puis l'autre pigeon. Elle l'avait suivi du regard à travers les arbres chargés de givre. Un instant, il s'était retourné pour lui envoyer un geste d'adieu. Et la pensée qu'elle ne le reverrait plus était venue si vive, si terrible, qu'elle était tombée comme morte sur la neige. En ouvrant les yeux, elle n'avait plus aperçu que la neige éclatante. Et à travers les hurlements féroces et le bruit de la fusillade, elle avait entendu les cris de son enfant. Je vous rappelle que ça se déroule tout près de chez elle. Il est mort, les attaques étaient collées contre les murs de la ville, les palissades. Sa petite s'était endormie. Celle qui va, dont je viens de vous parler, la petite enfant qui est épousée, qui s'est mariée deux fois et de nombreux enfants. La petite s'était endormie. Sa mère l'avait couchée dans son berceau et s'était mise en prière. Elle aurait voulu s'y absorber, mais chaque coup de feu la secouait et elle sentait comme un couteau qu'on lui enfonçait dans le cœur. Oh, cette poignante souffrance de l'inquiétude à son comble, que de fois Élisabeth l'avait éprouvée. Se rappelant tous les dangers auxquels son mari avait échappé, elle se reprochait de trop craindre, de ne pas assez espérer. Comme elle conjurait Dieu d'avoir pitié, de pardonner la faiblesse de sa foi. Et lorsqu'elle essayait de se reprendre au bonheur, à l'espérance, de se figurer son mari rentrant cette fois encore sans blessure, il lui semblait qu'une main invisible lui remettait sous les yeux un tableau de Jésus portant sa croix, bien des fois regardée à l'hôpital pendant qu'elle veillait les blessés. Elle revoyait la face résignée du Sauveur, et sur son épaule sacrée qui pliait, la lourde, l'horrible croix. C'était comme une apparition douloureuse, fugitive, mais apaisante, fortifiante. Elle, pauvre et faible créature, pourrait-elle marcher toujours dans la voie douloureuse, ne plus le voir, ne plus l'entendre jamais? Était-ce pour la préparer que Lambert lui avait dit le soir du jour de l'an? Si je suis tué, ses paroles lui revenaient avec une pénétrante saveur d'adieu, et cependant les heures s'écoulaient. Il y avait longtemps que l'Angélus était sonné à l'hôpital. Combien de temps encore la laisserait-on sans nouvelles? Mais dans les mois généraux, quelqu'un s'était souvenu d'elle, et une huronne, enveloppée d'une couverture aux couleurs éclatantes, accourait par le sentier. La neige, soulevée par ses raquettes, formait autour d'elle comme une blanche nuée, et bientôt elle fut à la maison. Élisabeth, dans son trouble, avait oublié de barricader la porte. L'Indienne entra doucement et l'aperçut affaissée contre le plancher. Mais elle lui dit, « Je t'apporte des nouvelles. » Quelques jours auparavant, elle avait été marraine de cette huronne. Elle s'en savait aimée, et son air joyeux calma soudain l'horrible angoisse. Pourtant, elle resta muette. La joie l'étouffait. « C'est au coteau du moulin que tout s'est passé, » continua la sauvagesse, dont les yeux brillaient de plaisir. Les Iroquois s'étaient emparés de la redoute, mais ton mari les en a chassés. « Va, je suis contente, et tu dois l'être aussi, car ton mari est un grand guerrier. » Élisabeth l'écoutait, défaillante de bonheur. Elle saisit les mains de la sauvagesse et d'une voix que l'émotion rendait méconnaissable, « Oh Anita, » dit-elle, « Anita, toi qui viens d'être baptisée, remercie Dieu pour moi. » « Ah oui, je le remercie, » dit la huronne, « mais il faut te chauffer, tu as l'air d'une fleur gelée. » Et comme il n'y avait plus que des cendres dans l'âtre, elle y mit du bois, bâtit le briquet, et bientôt un feu clair brilla. Et une douce chaleur se répandit. « Anita, » dit tout à coup Élisabeth, « J'entends des coups de fusil. Es-tu bien sûr que les Iroquois soient en fuite?
Oh, ils doivent être loin maintenant, répondit-elle avec un bon sourire.
Elisabeth étendit des fourrures sur le banc, le banc-lit. Vous savez, un banc-lit, c'est des bancs qui s'ouvrent, là. On avait ça autrefois dans nos maisons, et on pouvait mettre dans le banc les couvertures et tout ça. Les petits matelas au besoin.
Donc, Elisabeth étendit des fourrures sur le banc-lit, placé le long du mur, et s'y coucha. Elle se sentait épuisée et tremblait. Anita alla prendre un manteau accroché à la muraille et l'en couvrit. Puis elle s'assit par terre à ses pieds. Et après l'avoir un peu regardée avec compassion, elle lui dit de sa voix musicale, « Tu aurais donc bien de la peine si ton mari s'en allait au ciel ?» Elisabeth ne répondant en rien, elle poursuivit, « Vois-tu, je ne comprends pas cela. Tu l'aimes et il serait si bien en paradis. »
« Mais je ne le verrai plus, » murmura la jeune femme.
« Oui, » dit la Huronne, « mais lui, il verrait Dieu. Depuis que j'ai reçu le baptême, depuis que je suis l'enfant de Dieu, je sens toujours en moi comme un désir de mourir pour voir Dieu mon Père. » Et tout en travaillant, tout en marchant, je pense comme le ciel doit être beau.
« C'est que tu as encore toute l'énergie de la grâce de ton baptême, » dit la jeune femme, profondément touchée.
Et elle-même, elle songeait à ce nom de lumière ou d'illumination que l'on donnait au baptême dans la primitive Église. Était-ce la bonne nouvelle, l'effet calmant des paroles de l'innocente chrétienne, ou un secours qui lui arrivait de l'au-delà invisible, impénétrable? Il lui semblait qu'une main tendre et puissante arrachait de son cœur toutes les racines d'inquiétude et d'angoisse. Une paix céleste l'enveloppait, la pénétrait. Transportée de joie, elle prit sa fillette entre ses bras et se rappelant, comme le major, Lambert Clos, se plaisait au gazouillement de l'enfant, elle se mit en frais de lui apprendre à dire « Vive mon brave papa !» Avec quel plaisir elle prépara le souper. Avec quel soin elle disposa tout pour que la maison parût agréable et quel charme l'amour donnait à tous ces détails. Cependant, la nuit était venue et Lambert Clos n'arrivait pas. Pour l'apercevoir de plus loin, Elisabeth, oubliant la prudence, avait plusieurs fois dépassé l'enclos. Elle ne pouvait plus se tenir en place. Un frisson de crainte la glaçait jusqu'aux moelles. « Anita, dit-elle, toi qui entends les moindres bruits de si loin, va donc voir s'il vient. » La sauvagesse sortit, la tête penchée, elle écouta longtemps, puis elle entra en disant, « Il ne vient pas encore. » Il ne devait jamais revenir. C'était bien vrai que le héros, à la tête d'une vingtaine de colons, avait repris le moulin, mais l'ennemi mis l'ennemi en fuite, mais les Iroquois étaient revenus plusieurs fois à la charge, et une balle avait atteint Lambert Clos en plein front. Pendant que sa femme épiait son retour, il gisait sanglant, inanimé, sur la grande table sinistre de l'hôpital. Penché sur lui, le docteur Bouchard lui lavait le visage, et son chien lui léchait les mains en gémissant. C'est fini, c'est bien fini. Mais la mort a été instantanée. Il n'a pas souffert, dit enfin le docteur à ceux qui remplissaient la salle et regardaient muets, consternés. Averti que le major Lambert Clos était gravement blessé, Maisonneuve accourait, bouleversé, tremblant, mais espérant encore. Il aimait son héroïque compagnon de lutte et de misère. Il en était presque venu à le croire invulnérable. Et lorsqu'il l'aperçut, le front sanglant, pour toujours immobile, silencieux, un profond sanglot déchira sa poitrine, et en se jetant sur le corps déjà glacé, il l'étreignit et pleura comme un enfant. Ceux qui l'entouraient pleuraient aussi, et comme pour consoler leur chef, ils répétaient, « Il est mort pour Dieu et pour ses frères. » C'était la fin qu'ils souhaitaient. Oui, pour Dieu. Et Dieu seul peut reconnaître ce que nous lui devons, dit Maisonneuve. Vous le savez, c'est lui surtout qui a porté le poids de la lutte,
Il a été le défenseur de Ville-Marie. Et jamais homme n'eut plus de grandeur d'âme, de noblesse et de courage. Pour cacher aux Iroquois la terrible perte, Maisonneuve décida que le corps serait exposé à l'hôpital et que les funérailles se feraient de nuit. Pâle et tremblant, il prit le mousquet du héros, mais tout brisé de douleur. Se dirigea vers la maison de la pauvre jeune veuve, où le deuil allait entrer pour jamais. Et c'est ainsi que se termine ce roman de Laure Conan, qui date de près d'un siècle, qui a son style de l'époque, qui demeure quand même fort bien écrit. Et on peut lire d'ailleurs dans le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, au tome 2, qui a été publié sous la direction de Maurice Lemire, des éléments fort intéressants, où on raconte l'histoire. Il raconte un moment donné à Ville-Marie où il fait bon de respirer un air qui ne souille ni l'envie, ni la cupidité, ni l'hypocrisie. L'Amberclos se trouve sur la plus haute cime humaine. Dans ce milieu, et à l'instar de Maisonneuve, le chevalier à la Vierge, le chevalier à la Croix, il peut rêver d'héroïsme sans être assailli par les préoccupations matérielles et les impulsions charnelles. Il s'est voué à une mission qu'il se propose de mener à bien, implanter une colonie catholique dans une solitude où rôdent les Iroquois. C'est dans cet immense dictionnaire des œuvres, ces 1363 pages, ce tome 2, publié chez Fides en 1980. J'ai le goût de vous laisser là-dessus, mais j'ai le goût aussi de vous signaler qu'au Cégep Maisonneuve, du nom du fondateur de Montréal, on publie un journal, et en janvier de ce mois-ci, il y a deux articles. Sainte-Marie, Mère de Dieu, mais Marie, c'est sur la Marie-Johanna. En faveur de fumer ce pot qui est dit, le pot est considéré injustement méchant, tandis que l'alcool est accepté. Un autre article, signé Yannick, Dieu miséricordieux, chrétien. Un article plus ou moins blasphématoire, où il est question à la fin. En ressortant de l'Église, je compris que mon hypocrisie était en accord avec l'institution chrétienne actuelle, ce qui me soulagea. Mais il me restait encore à apprendre dans le domaine des jeux de pouvoir et dans la poursuite de la richesse pour être un chrétien digne de son institution. Des articles antichrétiens que l'on fait lire à nos jeunes, qui en sont écrits par des jeunes, au Cégep Maisonneuve. Quelle tristesse! On est loin de l'Amberclos et on est loin de nos origines.